Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour le débat des grandes voix historiques d'Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour décrypter l'actu de la semaine avec Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta et Gérard Carrérou, nos quatre fantastiques toujours en forme. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci. Au sommaire, la petite phrase d'un policier du syndicat Alliance qui a fait grand bruit cette semaine.
Le problème de la police, c'est la justice.
C'était mercredi lors de la grande mobilisation des policiers devant l'Assemblée nationale. Le problème de la police, c'est le manque de moyens de la justice, répond ce matin Gérald Darmanin dans une longue interview aux Parisiens. Peut-on, doit-on opposer police et justice? Quel équilibre entre liberté et sécurité? Ce sera notre premier débat, les grandes voix, dans un contexte marqué par la censure partielle par le Conseil constitutionnel de la loi dite sécurité globale. Deuxième débat du jour. Le cessez-le-feu au Proche-Orient et le satisfecit du président américain Joe Biden.
Je pense que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie.
Un cessez-le-feu fragile et après, ni vainqueur ni vaincu et rien n'est réglé pour autant. Troisième et dernier débat, le retour de Benzema en équipe de France et le clip polémique pour les Bleus signé du rappeur controversé Youssoupha.
Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, note-le, écris mon nom en bleu, hein. Défendre les lignes et les frères d'armes.
Je vois Catherine Ney danser dans ce studio, choisir ce rappeur, c'est céder à une partie racaille de la France, accuse le Rassemblement National. On est loin de la France Black Blanc Beurre de 98. Youssoupha, Benzema, choix critiquable ou polémique malvenu, vous nous direz ce que vous en pensez, les grandes voix. Voilà pour le programme, bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, le débat des grandes voix, c'est parti. C'est assurément l'image de la semaine, la démonstration de force des policiers devant l'Assemblée nationale. Ils étaient 35 000 selon les organisateurs, 10 000 selon plusieurs sources policières, avec cet échange marquant qui résume bien les enjeux sécuritaires et politiques. Vous allez réagir dans un instant entre un policier et Gérald Darmanin.
Vous nous aidez, monsieur le ministre. On compte sur vous. Hein. Le métier de policier aujourd'hui, c'est très difficile. Ça fait presque 30 ans que je suis dans la police. Les choses se dégradent. Ça se dégrade et nous, on n'est pas aidés.
Oui.
Aujourd'hui, on part au boulot et tous les soirs, il faut rentrer et on espère rentrer. Et on ne sait pas comment on va rentrer, dans quel état ou si on ne va pas finir à l'hôpital. Donc, les policiers, tous autant qu'on est, je pense que tous, on a été blessés un jour. On a tous fini à l'hôpital et ça ne peut pas durer. Il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'un policier, on n'y touche pas. Les policiers, les pompiers, les gendarmes, tout ça, il faut les respecter. Parce que ça peut plus durer.
C'est mon signe de respect, viens vous voir. Je sais que c'est très difficile.
J'ai... Le boulot, on l'a au cœur, ce boulot. Et c'est important pour nous.
Et vous savez très bien que les Français vous soutiennent. Et c'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte.
Les pleurs de ce policier, le soutien de Gérald Darmanin, qu'il réitère ce matin dans Le Parisien, tout en disant, Charles Villeneuve, que ce n'est pas... Le problème de la police, ce n'est pas la justice, mais le manque de moyens de la justice. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas deux visions au sein du gouvernement, la police, la justice.
Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? Ça fait à peu près 40 ans qu'on dit que la justice, de toute façon, n'a pas les moyens qu'elle mérite. Ce qui est vrai, totalement. Mais peut-il dire, d'ailleurs, et commenter l'une des initiatives du garde des Sceaux, qui était une bonne initiative? C'est que l'École nationale de la magistrature est beaucoup trop idéologisée. Peut-il dire qu'il faudrait rapprocher l'École nationale des barreaux de l'École nationale de la magistrature? Quand Dupond-Moretti nomme une avocate à la tête de l'École nationale de magistrature, c'est une très bonne initiative. On n'en parle pas assez, on ne disserte pas assez là-dessus. Quand vous avez un juge d'instruction et que vous savez que au cours d'une élection présidentielle, notamment celle de 2012, vous avez 80 magistrats, presque tous des juges d'instruction, notamment du parquet national financier, ont appelé à voter contre le président sortant. Vous pouvez vous poser une question, c'est ce que disent d'ailleurs plusieurs officiers de gendarmerie et plusieurs directeurs de police, et vous demandez, est-ce que c'est un juge d'instruction ou un adversaire politique, ou un partenaire politique? C'est ça aussi l'une des grandes questions de la réforme à laquelle veut s'attaquer le garde des Sceaux. Et là-dessus, il a raison, le garde des Sceaux.
Le garde des Sceaux,
c'est ça aussi le problème.
C'est pas seulement les moyens. Les moyens, c'est important, c'est vrai. J'ai eu une discussion il y a à peu près un mois avec l'un des conseillers politiques les plus proches du président de la République, Thierry Soler. Et je lui ai dit, les policiers, attention Thierry, les policiers vivent, ont un sentiment, une conviction que la justice s'est enfermée dans un monde clos et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en prise de l'évolution de la plupart du monde de la délinquance qui s'attaque à l'autorité et tout ce qui porte uniforme.
Alors, il y a les chiffres également avancés par le ministère de l'Intérieur. Un doublement en 20 ans des agressions contre la police, 27 000 contre 13 000 il y a 20 ans. Mais en même temps, Gérard Carrérou, une baisse des homicides en 25 ans, 1200 contre 900.
Écoutez, je ne vais pas entrer dans le détail des chiffres. D'abord, parce qu'on n'a pas dans ce pays, c'est quand même un pays curieux, on n'a pas d'observatoire véritablement des chiffres comme on l'a dans d'autres démocraties. Avec les statistiques de genre et ethniques notamment. Enfin bon, c'est pas ça le problème. Le problème de la société aujourd'hui, le problème de la police, je sais pas si c'est la justice, mais je constate que le problème de notre société, de notre démocratie, parce que ça va jusque-là, c'est qu'il n'y a pas une cohérence et un continuum, une continuité absolue entre les deux piliers de l'État que sont d'un côté la police et la justice. S'il en manque un des deux au rendez-vous, l'histoire a tranché. Si manque la justice sans la police, c'est l'impuissance. Et si on a la police sans la justice, c'est une dictature, c'est le totalitarisme. Donc c'est clair, il faut qu'il y ait les deux. Et pour qu'il y ait les deux, je ne vais pas être long, je vais donner trois têtes de chapitre. Mmh. Pour qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait une correcte exécution et application des peines, ce qui n'est pas le cas en France. Et là, tous les chiffres dont on dispose le démontrent. De moins en moins d'applications de peines. Les petites peines ne sont pas exécutées. La prison devient marginale pour les petites peines. C'est tout ça, vous le trouverez, comme on dit, sur Internet et dans vos journaux. Ce n'est pas la peine d'allonger la sauce. Deuxième réflexion, il faut des moyens, certes. Le premier des moyens, c'est des places de prison. Il y a une gestion aujourd'hui hôtelière de la justice. On demande, est-ce qu'il y a de la place? S'il y a de la place, on peut éventuellement envisager mettre en prison. Et s'il n'y a pas de place, on dit, trouver le moyen de ne pas le mettre en prison.
Après, le syndicat de la magistrature rétorque que la délinquance n'explose pas, que les peines de prison fermes sont de plus en plus
nombreuses. Oui, mais ça, c'est du baratin du syndicat de la magistrature. Mais
non, c'est toujours la culture de l'excuse.
Les prisons, je constate un seul chiffre.
C'est la société qui, s'ils avaient tous un emploi, ils seraient bien, ils seraient des anges et tout ça.
Un seul chiffre, les prisons, on a 60 000 places aujourd'hui, il y en a 96 000 en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, que je sache, n'est pas un pays, ni un pays totalitaire, ni un pays plus grand, c'est à peu près de la taille de la France.
Et le gouvernement dit vouloir en créer 15 000 dans les années
à venir. Oui, mais Michel Cotta. Et on les aura quand? À la Saint-Glinglin?
Michel Cotta.
On a toujours vu des ministres de la police contre des ministres des gardes des Sceaux, on a toujours vu depuis longtemps, mais à ce point-là, c'est quand même quelque chose qui handicape un peu la marche de la démocratie, y compris dans un premier temps. Je me suis dit que Darmanin était assez courageux d'aller dans cette manifestation et qu'il a calmé les choses. Sa présence a tout de même calmé peut-être des éventuels
débordements.
Dans un deuxième temps...
Oui, mais quelques
c'est pour ça que je dis quelques huées, absolument.
Dans un deuxième temps, je me dis quand même qu'on n'a jamais connu, on n'a effectivement jamais connu un ministre de la justice aussi attaqué par des policiers, alors qu'on le sait, Darmanin et Dupond-Moretti s'entendent assez bien, ils ont des connaissances communes, ils sont plutôt proches l'un de l'autre, donc on voit bien, jamais ça n'a montré un État aussi divisé sur des problèmes régaliens de ce type, et à la fois on voit bien sur quoi ça porte, je reprends la liste de Gérard Carrérou. Mais enfin bon, ça porte sur les peines planchers. Mmh. Est-ce que, oui ou non, on peut demander à des magistrats, sans attenter à leur honneur, de définir une peine plancher ou une peine minimum, qu'on la peine comme on veut en cas d'attaque de policiers? Ça porte sur la justice des mineurs. C'est vrai que la justice des mineurs, en ce moment, fait problème parce que quand on a 14 ans, on a 1m80 et 90 kilos et par conséquent on est très peu mineur, donc il y a un problème de justice des mineurs et puis il y a un problème d'application des peines et de ce point de vue là Quand même, Dupond-Moretti a fait deux ouvertures. La première, c'est de dire qu'il n'y aurait pas de réduction de peine automatique, ce qui est important. Et la deuxième, et ce qu'il vient de faire, l'abandon de ce qu'on appelle les appels à la loi. Vous savez qu'on dit toujours que les jeunes sont appelés à la loi.
Les jeunes sont appelés à la loi, mais c'est remplacé par quoi?
Ben, on va voir.
Alors justement, on va en parler.
J'ai envie de vous entendre sur ce point.
On va continuer de parler de toutes ces mesures juste après. Catherine Ney, j'ai envie de vous entendre notamment sur ce point. On fait une petite pause et on se retrouve. A tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Le débat des grandes voix en compagnie de Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On parle de police et justice. Les syndicats de policiers qui réclament des mesures fortes, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, Catherine Ney, je voulais vous entendre sur cette opposition entre police et justice représentée au plus haut sommet de l'État. On parlait de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti. Pour vous, ce n'est pas nouveau?
C'est pas nouveau. Quand Christiane Taubira, pendant le mandat de François Hollande, était absolument hostile à construire des places de prison et était toujours dans la culture de l'excuse, c'était toujours celui qui avait fauté, que la société devait comprendre et tout ça, c'était absolument pas, c'était la ligne de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Il y avait vraiment une dissension. Nicole Belloubet, est-ce qu'elle est vraiment dans la ligne du ministre Gérard Collomb? Mais pas du tout. Vous voyez ? Et là, il y a un paroxysme. D'abord parce qu'on a changé, d'air. Les personnalités sont peut-être plus fortes, si vous voulez, mais c'est encore une histoire droite-gauche.
Il n'y a pas un fossé plus grand qui est parti justement de ce mot ensauvagement de Gérald Darmanin il y a quelques mois.
Quand Darmanin dit qu'il y a un ensauvagement de la société et que le ministre de la Justice vient de dire c'est pas vrai, c'est le ministre qui se trompe. Je veux dire, le ministre de la Justice qui s'est trompé. Vous ne ferez pas croire aux Français qu'il n'y a pas un ensauvagement de la société avec tout ce qu'on voit et ce qu'on lit, tout ce qui se passe aujourd'hui.
Mais les mots ont un sens, avait dit Éric Dupond-Moretti.
Oui, justement, ce mot-là, les Français le prenaient dans le sens plutôt de Darmanin que de Dupond-Moretti. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas résolu. Et je vais vous dire, quand Charles dit que tout va changer parce qu'on a mis une avocate
j'ai dit que c'était une très bonne initiative.
C'est une initiative, mais je voudrais bien savoir ce que ça va changer.
Je voudrais ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qui me paraît absolument désuet en France, c'est de continuer à raisonner en 2020, ou 21 même, en 2021, comme en 1850. On raisonne comme à l'époque de Victor Hugo. Et Dieu sait si Victor Hugo est un grand homme et mérite de l'être, et mérite d'être lu et entendu. Mais quand c'est avec Victor Hugo qu'est née cette idée de Les Misérables, Jean Valjean, la prison est l'école du crime. Et cette philosophie, effectivement, elle correspond à quelque chose, mais elle ne correspond plus à l'état d'esprit des Français d'aujourd'hui qui assistent aux atrocités qu'on a constatées les derniers temps. Bien sûr, moi je dirais, il ne s'agit pas de dire que la prison est le remède absolu au crime, le remède absolu à la délinquance et aux meurtres de policiers et aux femmes brûlées vives. Le problème, simplement, exclure la prison de toute solution, au départ en disant non, la prison c'est un pourrissoir.
Mais ça n'est pas le cas, c'est Michel Cotta, dans
la philosophie des ministres que Catherine a rappelé, c'est dans leur tête.
Comment c'est trop facile, si tu cites Victor Hugo, il y a l'autre citation de Victor Hugo en sens inverse, c'est chaque fois qu'on ouvre une école, on te ferme une prison. Ça veut dire chaque fois que...
Elle n'est pas incompatible, c'est la même chose.
Peut-être, mais je sais pas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les peines de prison ne sont pas la seule solution à certains délits.
On voit très bien
des tout petits délits qui entraînent des prisons. Bon, on peut évidemment, et c'est moderne, chercher d'autres raisons.
Mais c'est faux ce que tu dis, Michel, je suis désolé.
Mais non.
Les délits qui étaient sanctionnés autrefois par 1 an, 18 mois, 2 ans de prison ne sont plus exécutés.
Oui, alors,
il n'y a plus de petites peines.
Il n'y a pas de statistiques. On est d'accord. On est d'accord sur le fait qu'il y a des petites peines, mais on est d'accord aussi qu'il y a des délinquants qui sont en prison et qui n'ont rien à y faire. Moi, je pense à des délinquants, après tout,
Moi, Bernard Tapie en prison, je trouve ça ridicule.
Oui, mais c'est un autre sujet.
Non, mais
bon,
non, mais la délinquance
en col blanc
prison,
est autre chose.
Mais la délinquance, encore bien, mais c'est pas autre chose.
Mais si, si, si,
c'est des gens. Parce que ces gens-là ne nous attaquent pas dans la rue.
Il y a des gens qui sont en prison, justement, et qui n'ont rien à y faire.
Par rapport aux peines de prison.
En revanche, il y a des gens qui devraient être en prison et qui n'y sont pas.
Par rapport aux peines de prison, il y a une surenchère sécuritaire de demandes, etc. Vous disiez tout à l'heure qu'Éric Dupond-Moretti avait donné, avec cet amendement, la possibilité d'avoir une fin des réductions de peine automatique. Jeudi, il y a une députée RN qui est allée encore plus loin à l'Assemblée, qui lui a réclamé une détention provisoire automatique pour les atteintes aux forces de l'ordre. Écoutez la réponse d'Éric Dupond-Moretti et j'attends votre réaction juste derrière.
On pourrait envisager aussi une détention obligatoire pour ceux qui sont impliqués dans les affaires de détournement de fonds publics punis de 10 ans d'emprisonnement. Croyez pas ? Ben, puisqu'on en est là. Mais qu'est-ce que c'est de cette idée d'une détention provisoire pour un présumé innocent qui serait automatique ? Mais je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que vous nous vendez du vent, madame. Parce que d'abord, c'est inconstitutionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du sens de vos propos. Mais vous êtes un danger pour la démocratie.
Éric Dupond-Moretti qui répondait à Catherine Pujol. Est-ce que le risque de la surenchère, c'est à terme, comme il le dit, un gouvernement sans juge ?
Non, mais qu'il y ait un concours Lépine, si vous voulez, de la mesure la plus sécuritaire, bien sûr. Mais là, elle est assez isolée, de toute façon, cette suggestion. Les peines planchées, bon, j'ai entendu aussi le ministre de l'Intérieur en rire. Or, il a été l'un des plus chauds partisans lorsqu'il était ministre, de toute façon, de Nicolas Sarkozy.
Enfin, qui avait instauré ces peines planchées.
Oui, mais on marche sur la tête, si vous voulez, de lancer de telles polémiques. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que le gouvernement, en même temps, a fait voter quelques amendements, notamment jeudi, pour répondre aux préoccupations des forces de l'ordre. Il ne faut pas oublier la période de sûreté de 30 ans pour les meurtriers de policiers ou de gendarmes. La diminution
d'ailleurs,
de moitié...
D'ailleurs, c'était le lendemain de la manif des policiers.
Bon.
Oui, mais enfin, bon, sur non, les rails,
allez-y,
on peut pas dire.
D'accord, mais elle a été votée dès le lendemain.
Charles Villeneuve.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je dis.
Donc, ils ont eu leur réponse.
Oui. Voilà. Donc, il y a aussi, si vous voulez, les réductions de peine dont ils peuvent bénéficier, comme les terroristes ou d'un tiers pour les auteurs d'agressions délictuelles à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique. Et c'est l'un des grands problèmes, puisque même les pompiers, maintenant, ne peuvent plus aller dans ces certains quartiers. Les pompiers qui
sont
quand même...
Trois fois plus de pompiers blessés en 10 ans, 8 cas par jour.
Des sauveteurs, hein ? Je ne sais pas, moi. Et donc, c'est ça le fond du problème. Et ce fond du problème-là, il faut aussi reconnaître que là-dessus, il y a une symbiose entre le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Maintenant, si vous voulez, ce type d'initiative qu'on vient d'entendre sur laquelle le garde des Sceaux a réagi...
Elle est isolée.
Il faut dire aussi qu'il y a un syndicalisme formidable de la magistrature. Parce qu'au fond, les peines planchées, l'opposition aux peines planchées, qui après tout ne serait pas complètement inenvisageable. Hein. C'est quand même les syndicats de magistrats, d'ailleurs de droite et de gauche, hein, qui disent non, ça atteinte à nos pouvoirs. Nous seuls avons le pouvoir de dire quelle est la sanction immédiate.
Mais parce qu'il y a un principe dans la justice française, Michel, c'est l'individualisation des peines.
Souvent, quand même, dans ce conflit, on a beaucoup de syndicats de policiers et contre-syndicats.
Oui, je voudrais dire un mot là-dessus. On n'a pas abordé un sujet quand même majeur aujourd'hui. Les gens ont le sentiment que la politique pénale, au-delà de tout ce qu'on a dit précédemment, que je partage un certain nombre de choses, au-delà de ça, il y a une politique pénale qui est entravée en permanence. Elle est entravée de deux manières. Entravée par des juges idéologiques, ça on l'a mentionné, Charles a rappelé, le mur des cons et les juges qui sont fortement politisés au syndicat de la magistrature, ça c'est au niveau moyen des juges. Mais il y a le niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est ce que j'appelle l'esquisse de gouvernement des juges. Un certain nombre de décisions du Conseil d'État que des décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel,
qui a en partie contrairement
à ce qu'il était sous le général de Gaulle, a pris une importance de plus en plus grande, avec les références en plus européennes et celles de la Cour de justice européenne, on a un certain nombre de décisions qui ne peuvent plus être prises par nos démocraties au plan national.
Merci Gérard Carrérou. On va passer à notre prochain débat dans un instant. Nul doute que nous reparlerons de police, de justice, de sécurité qui fait partie des thèmes majeurs de cette campagne, des trois thèmes avec le pouvoir d'achat et la santé plébiscités par les Français de cette campagne présidentielle qui a commencé assurément dans un instant. Nous parlons du Proche-Orient. À tout de suite.
10h, 11h, Les grandes voix d'Europe 1.
La semaine dernière, dans ce même studio, Gérard Carrérou, vous prédisiez que les raids israéliens ne répondraient plus aux requêtes palestiniennes très rapidement. C'est une question de semaine, aviez-vous dit. Nous sommes une semaine après. Et le ciel israélien et le ciel palestinien ne s'embrassent plus. On peut s'en réjouir, mais il y a tout de même eu 260 morts, dont 67 enfants, essentiellement palestiniens. Et en effet, rien n'est réglé sur le fond, désormais. Malgré l'intervention de Joe Biden, qui s'est félicité. Écoutez-le.
Je pense que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra sa diplomatie discrète et infatigable pour atteindre cet objectif. Je crois que nous avons une réelle opportunité d'avancer et je m'engage à travailler dans ce sens.
Nous avions évoqué ensemble le rôle des États-Unis dans la résolution de ce conflit, pas une priorité au départ, c'était l'Iran bien entendu, des blocages au Conseil de sécurité. Finalement, les États-Unis sont toujours incontournables dans la région, avec l'Égypte bien sûr.
Oui, mais ils sont attendez, en d'autres temps, ils seraient intervenus fortement. Oui. Là, on peut dire qu'ils ont fait le service minimum.
Ah, oui.
Pourquoi ont-ils fait le service minimum? Et ça, on l'avait dit aussi la semaine dernière, les uns et les autres. Parce qu'effectivement, ils estiment, un, ils ont toujours une solidarité active avec Israël. Mais ils estiment qu'Israël est assez grand maintenant pour à peu près se défendre, avec les moyens d'ailleurs que les Américains continuent de leur donner sur le plan militaire, mais les moyens technologiques mis au point par les Israéliens eux-mêmes, et qu'effectivement, il n'est plus nécessaire d'avoir véritablement une intervention directe. On a sous-traité, par exemple, avec les Égyptiens. Les Égyptiens, qui sont à la fois les amis d'Israël maintenant et les amis de l'Amérique, eh ben, ils ont joué le go-between, et c'est avec eux qu'on a fait le cessez-le-feu. Donc les Américains ne se mêlent plus directement. C'est ça la grande différence avec ce qui se passait il y a 10 ou 15 ans.
Et même avec Trump.
Oui,
avec Trump, ça allait même plus rapidement. Et c'était beaucoup plus... Il y avait une alliance effective, permanente, notamment avec entre le gendre de Trump et Netanyahou.
Oui, mais Trump a vraiment craqué une première allumette en décidant de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv
à Jérusalem,
ce qui voulait dire que Jérusalem devenait une capitale non partagée.
Elle n'y est toujours pas, il n'y a pas d'ambassadeur encore.
Mais ça voulait dire pour les Palestiniens que Jérusalem devenait la capitale d'Israël et que ça les excluait de Jérusalem-Est, où est la mosquée Al-Aqsa. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'était une provocation de décider ça tout seul, sans contrepartie d'une négociation avec les Palestiniens. Bon, et la grande force a été les accords Abraham, où certains pays, évidemment, comme les Émirats Arabes Unis, le Maroc, Bahreïn,
le Soudan, se sont
désolidarisés de la cause palestinienne, parce qu'aussi, peut-être, ils pensent que c'est une solution qui n'en a pas.
Et est-ce que ça peut être remis en cause par les violences de la semaine dernière?
Mais non, ce qui est remis en cause aujourd'hui, c'est que cette crise, ou par imbécile, où la police a empêché en plein Ramadan les Palestiniens de venir à l'esplanade des mosquées et de venir prier, tout ça, ça a déclenché les réactions du Hamas. Mais surtout, ça a déclenché à l'intérieur, et ça, c'est très grave, parce que c'est la première fois que ça se produit, une véritable confrontation entre les Israéliens arabes et les Israéliens juifs, dans des villes dites mixtes. Et là, il y a une haine qui est passée et qui n'est pas terminée et qui va créer de gros dégâts.
Je voulais simplement passer des deux hommes, au fond, du cas Biden et du cas Netanyahou. On se dit qui a gagné, qui a perdu dans cette affaire. Le Hamas considère qu'il a gagné parce qu'il a existé, parce qu'il a représenté la cause palestinienne.
Il envoie 4000 roquettes.
Netanyahou considère qu'il a gagné.
Il est le grand vainqueur.
Mais du point de vue de Biden, on dit que sa diplomatie a été quand même assez absente. Mais il n'est intervenu finalement que lorsque les forces israéliennes avaient complètement détruit leur cible sur la bande de Gaza. Donc il a quand même, quelque part, attendu la fin pour décider qu'il ne déciderait pas. Alors, je comprends son problème, et par rapport à Trump, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est vrai aussi qu'il ne serait peut-être pas intervenu même là s'il n'y avait pas eu une gauche démocrate pour une première fois hostile. Et puis, l'autre homme dont il faut parler quand même, c'est Netanyahou. On pouvait penser que ça lui donnait cette semi-victoire d'Israël, donc lui donnerait plus d'importance dans un moment où il est très critiqué. Or, c'est peut-être le contraire, parce qu'au fond, on s'aperçoit que personne ne voulait tellement de cette offensive. Dieu merci, elle n'a pas été terrestre. Mais personne en Israël, en dehors de l'extrême droite, ne voulait un tel. Donc au fond, là maintenant, l'extrême droite lui reproche d'être intervenue sur le conflit et la gauche dit qu'il n'aurait pas dû aller au conflit.
Charles Villeneuve, Benjamin Netanyahu n'est pas le vainqueur de cette guerre éclair.
Non, mais si vous voulez, il y a un vainqueur relatif, il y a deux vainqueurs relatifs. Il y a le Hamas et Netanyahu qui a été remis en selle dans cette affaire, puisqu'il a perdu en quelque sorte les législatives. Puisqu'il n'a pas été capable de constituer une majorité. Bon, mais là, il est remis en selle et il peut parfaitement. Il peut y avoir, de toute façon, si vous voulez, à nouveau, cette remise en selle peut déboucher sur une nouvelle élection législative,
une cinquième en quelques mois.
Mais le Hamas, en franchissant la ligne rouge, en tirant, si vous voulez, des roquettes, des missiles, au-delà, si vous voulez, de Jérusalem-Est, savait pertinemment qu'il allait provoquer un déluge de feu de l'armée israélienne. Il le savait d'autant plus pertinemment qu'il y aurait beaucoup de victimes, et notamment des enfants, dont vous avez cité le chiffre 65.
Oui.
C'est ce qu'on appelle la dissuasion du faible au fort. Parce que, en déclenchant ce déluge, savait pertinemment que la réplique allait être très forte. Et dans les pays arabes, les commanditaires du Hamas, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie et son financier aussi, le Qatar, bien évidemment, il a remporté, pour eux, en tout cas, la victoire. Il est devenu l'interlocuteur palestinien valable au détriment de l'autorité palestinienne.
Il y a débat, je sais que vous voulez tous répondre, Catherine, mais ça sera juste, Gérard Carrérou, je vous promets, je vous donne la parole dans un tout petit instant. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Sébastien Guyot.
Avec ce deuxième débat consacré au conflit israélo-palestinien et cette déclaration de Joe Biden, Gérard Carrérou, hier soir, qui se félicite bien sûr du cessez-le-feu, mais qui dit que la seule solution pour régler le problème, puisqu'on disait que rien n'était réglé, c'était deux États côte à côte, Israël-Palestine.
Oui, mais ça, c'est une déclaration pour l'instant qui ne débouche sur rien. Ce qui est important, on a souligné, et je partage ce qui a été dit sur la victoire du Hamas d'une certaine manière, et celle de Netanyahou par Charles, qui se remet en selle. Ce qui, par contre, est très inquiétant. Pour l'instant, j'avais dit, ça se terminera vite, ça va se terminer, ça s'est terminé, mais ça peut reprendre.
Mais c'est fragile, il y a quand même des heures,
extrêmement fragile. Pourquoi ?
Tous les jours,
parce qu'il y a eu un fait, qui est un fait à la fois politique, sociologique, humain, qui est l'irruption pour la première fois des Arabes qui vivent en Israël. Catherine l'a esquissé. Ça modifie complètement la donne, ça.
20% dans la
alors,
dans
on
les
avait dit,
mixtes,
moi j'ai parlé 18, pendant la semaine, j'en ai profité pour parler avec un certain nombre d'amis que j'ai, qui sont des hommes d'affaires israéliens qui vont en permanence, qui vivent entre Paris et Jérusalem ou Tel Aviv. Ils pensaient, le sentiment dominant, disons, de la classe, des intellectuels de la classe moyenne, c'était que peu à peu, les Arabes qui sont en Israël, leur niveau de vie s'étant élevé, ils se développeraient un peu comme en Amérique avec les Noirs, une sorte de bourgeoisie moyenne et palestinienne.
Elle existe,
mais pas suffisamment ce point. Ce qui fait que les idées dues à la contagion du Hamas a gagné non seulement les territoires effectivement occupés, mais elle a gagné aussi ces Arabes-là. Et disons que les jeunes Arabes, parce que c'est aussi un problème de génération.
Les jeunes Arabes israéliens.
Comme c'est un problème, je dirais sans faire de parallèle, mais comme c'est un problème ici pour l'intégration, les jeunes Arabes sont plus remontés. Donc il y a eu une double radicalisation.
Alors, Gérard, vous parlez, mais surtout, on va laisser ces femmes s'exprimer, s'il vous plaît,
oui,
Michel Cotta.
Surtout, je laisse les femmes s'exprimer.
Oui, surtout quand même, quand, sur la décolonisation. Il n'a rien été fait, parce qu'on a dit les deux États palestiniens, ils étaient prévus quand même par la résolution, par la première résolution de l'ONU.
Palestiniens,
bon, ils étaient prévus. Or, c'est Israël qui s'y est opposé, et vous vous rappelez quand même les accords qui avaient permis à un moment donné de penser qu'il y aurait deux États séparés, mais quand même...
Les accords d'Oslo en 1993.
Voilà. Or, là-dessus, les accords d'Oslo qui ont fait
Rabin
espérance
Rabin
formidable.
Rabin a été assassiné.
Il faut voir la haine accumulée du côté palestinien à l'idée que ces accords n'aient pas été réalisés et que finalement, il y ait tout compte fait deux poids, deux mesures. C'est toujours très différent, très difficile de parler dès qu'on parle d'Israël, mais enfin, il y a deux poids, deux mesures. Effectivement, la décolonisation, la recolonisation par les Israéliens, il n'y a pas eu de coup d'arrêt. Et là, Catherine a raison de souligner que tout de même, le jour de la fin du Ramadan, on n'est pas obligé d'aller sur les mosquées.
Mais c'est la première erreur. Michel, alors après, on a raison de dire.
Et puis l'expropriation.
Je me souviens de l'avoir interviewé plusieurs fois ici pour Europe. Arafat, il n'a pas compris qu'il était arrivé à un moment où il pouvait faire l'État palestinien. Il a maintenu une forme d'intransigeance et depuis cette minute-là, il en est mort.
La grande question, Catherine, est de savoir en effet si...
C'était fini l'histoire des deux États à ce moment-là, pendant 30 ans. Et on est au bout maintenant de 25 ans.
Non mais ce qui est terrible pour les Palestiniens, c'est que dans le fond, Mahmoud Abbas, qui était censé gouverner la Cisjordanie et Gaza, n'a plus aucun pouvoir et il est trop... Et en tout cas, dans la bande de Gaza, on le trouve trop mou avec Israël. Mais là, ce qui est nouveau... C'est la force de frappe soudaine du Hamas, qui est quand même un mouvement terroriste, reconnu comme terroriste, qui veut détruire Israël,
qui est islamiste,
par sa force de frappe. Et tout d'un coup, c'est une victoire militaire. Et les Palestiniens, les sujets...
Non, c'est une victoire militaire très relative.
Mais très relative, les Arabes
un mot
israéliens,
devant le micro, ma chère Catherine.
Militaire.
Et un mot de conclusion de Charles Villeneuve sur ce sujet.
Oui, mais le fait le plus important, c'est ce qu'a souligné Gérard.
C'est un prestige militaire.
C'est-à-dire les jeunes Arabes israéliens qui se sont palestinisés.
Et c'est le
fait qu'en réalité, s'amorce une cohabitation impossible. Dans les 15 à 20 petites villes, notamment petites villes ou villes moyennes, qui sont entre Jérusalem, Lod et Tel Aviv. Et le fait d'avoir frappé Lod et Tel Aviv est un pas qui a été franchi, qui marque cette incompatibilité. Et donc l'avenir, si vous voulez, et c'est en cela que Netanyahou a une lourde responsabilité, c'est qu'il faut qu'il tienne compte de ce fait politique énorme.
Et la loi du nombre ne peut être niée.
Merci les grandes voix. On va passer à un tout autre sujet, tout aussi passionnel dans un instant. Le retour, dans un autre style bien entendu, le retour de Benzema en équipe de France, ainsi que le clip des Bleus signé du rappeur Youssoupha qui déclenche une passe d'armes entre le RN et le gouvernement. A tout de suite. Déjà la dernière ligne droite que s'affile vite de ce débat des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On a l'habitude de dire qu'il y a 67 millions de sélectionneurs en France. Quand une Coupe du Monde ou un Euro se profile, eh bien ça y est, on y est, dans 3 semaines c'est l'Euro. Et il y a le retour de Benzema. Alors, ça fait jaser, on rappelle le contexte. Il a été banni de l'équipe de France pendant 5 ans pour avoir dit du sélectionneur Didier Deschamps qu'il avait cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Alors là, il est au sommet de sa forme, il est de retour en bleu. Charles Villeneuve, vous avez été président d'un club, le PSG, vous connaissez bien le football. C'est un choix sportif ou un choix politique, le retour de Benzema ?
C'est d'abord un choix sportif très simple. Je connais assez bien Didier Deschamps, enfin je ne le connais pas très bien, mais je le connais assez bien. J'ai passé plusieurs séjours avec lui en Italie et il m'a expliqué, si vous voulez, les points stratégiques sur lesquels repose sa sélection. Lui considère toujours qu'il faut 2 pointes de classe mondiale, c'est-à-dire le goal et l'avant-centre. Mmh. Or, dans les dernières prestations de l'équipe de France, vous avez pu remarquer qu'ils ont difficilement fait un match nul contre l'Ukraine et battu des nations moyennes du football, difficilement. À partir de là, il a fait son check-up, en quelque sorte, de l'équipe. Et il a vu que son avant-centre, notamment Giroud, qui jouait de moins en moins dans le club anglais de Chelsea n'était plus, si vous voulez, n'avait plus aussi autant d'acuité qu'auparavant.
Donc choix sportif.
Et donc choix sportif, stratégique, sportif, parce que, si vous voulez, avec l'intégration de Benzema, il faut savoir que l'attaque française n'a pas de comparaison dans aucune nation.
Vous n'êtes pas d'accord, Gérard Carrérou.
Alors, pour jouer dans l'équipe de France, il y a ce que j'appellerais une condition nécessaire, une condition suffisante. La condition nécessaire, effectivement, c'est d'être un bon footballeur. Et là, je fais confiance à Charles pour penser que Benzema est un très bon footballeur.
Et à Didier Deschamps.
Et que c'est donc, ça peut expliquer, et ça explique en grande partie le choix. Mais je dirais simplement qu'il y a aussi une condition absolue qui est que pour jouer dans l'équipe qui représente la France dans une compétition internationale, La première condition, au-delà de jouer bien au football, c'est d'aimer la France. Et j'attends, on verra sur preuve. Il y a un passé qui n'est pas blanc-bleu, si j'ose dire, pour Benzema. On verra si Benzema le manifeste dans sa nouvelle configuration, si Benzema manifeste qu'il aime la France comme il devrait.
Il l'a dit hier soir dans une vidéo.
Tant mieux qu'il le dise et qu'il le répète.
De jouer en équipe de France. Michel Cotta.
On lui a fait quand même un très mauvais procès, parce qu'on a dit, effectivement, l'extrême droite a dit qu'il ne chantait pas la Marseillaise. Bon, il est binational.
Non, il n'y a pas que l'extrême droite qui lui a fait un
procès. Non, mais comme beaucoup d'autres avant. Platini ne chantait pas la Marseillaise.
Le Rassemblement National a bon dos de tout. Mais n'oublie pas quand même que lui-même a dit que son choix pour la France n'était pas un choix de cœur. Et que son pays de cœur, c'était l'Algérie.
Il a dit aussi en 2017, j'ai vu toutes ces citations, il a dit « Je ne crache pas sur le maillot de l'équipe de France, je me réjouis à chaque fois que je joue pour la France ». On l'a accusé aussi de vouloir être dans l'équipe de France parce que pour être payé pour des questions financières. Or, on n'est pas payé quand on est à l'équipe de France, on n'est pas payé, on est payé, on a des primes. Bon. Benzema, le cas Benzema, me semble avoir complètement été récupéré, magnifié au moment où il a dit ce qu'il a dit. Voilà.
Mais non, mais voilà. D'abord quand tu dis que l'équipe de France, on n'est pas payé, c'est pas ça que recherchent les joueurs qui sont en équipe de France. C'est la notoriété que tu peux avoir sur le plan mondial qui fait monter les prix de transfert.
Stéphane Ravier l'a accusé récemment de devoir faire ça. Uniquement pour le.
Alors, il y a une autre polémique qui a été portée par le Rassemblement National, Catherine Ney, c'est Jordan Bardella qui estime que le gouvernement a cédé à une partie racaille, a-t-il dit, de la France, en choisissant le rappeur Youssoupha pour un clip à la gloire des Bleus, clip qu'on entendait, la chanson, on l'entendait tout à l'heure.
Oui, alors là, c'est la Fédération française de football qui a dévoilé ce clip sur les réseaux sociaux, alors que le patron, Le Graët, n'était pas au courant. Et que les joueurs n'ont pas été consultés et n'ont pas vu le clip. Oui, alors, qui a décidé? Oui,
ça, alors, ce n'est pas l'hymne officiel. Hein. Ça a été validé par la Fédération française, mais ce n'est pas l'hymne officiel.
Alors, choisir Youssoupha,
qui est un des rappeurs qui vend le plus en France. Hein.
Qui vend oui, bien sûr, mais qui dit ne pas vraiment aimer la France, qui dit nique la police, nique les procureurs, qui a dit Madame Le Pen que sa semence, je le cite, sa semence de nègre voudrait foutre en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Vous voyez, bon, je comprends qu'il y a des gens que ça choque, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est chose que personne n'a vu, qui est mis sur le. Et je ne sais pas si vous avez vu les images, parce que les images sont tragiques. Vous voyez, c'est des dessins où les portraits, ce sont des portraits des joueurs, pas des photos. Et les images sont noires, elles sont violentes. Je trouve que c'est quelque chose qui n'appelle pas à la concorde. Et beaucoup plus que, pour le coup, la chanson de Youssoupha, qui, elle, dit...
Les paroles,
c'est l'unité. Ouais. Mais les images sont effrayantes. Et moi, voilà.
Michel Cotta.
Youssoupha, il paraît que c'était le rappeur préféré de Marion Maréchal Le Pen, ce qui est quand même drôle.
Ah bon.
Alors, je crois que l'essentiel... Enfin, je pense que ce qu'ont voulu faire les gens, c'est faire moderne. Faire jeune. Le clip en soi, d'abord, c'est pas l'hymne. Et ensuite, le clip en soi n'est pas un détournement monstrueux.
Non. Un mot de conclusion.
Oui, je pense qu'il a le droit, comme tous les chanteurs. Moi, je suis pour la liberté d'expression sans entrave, dans un pays où de temps en temps on l'oublie un peu. Il a le droit à la liberté d'expression et qui continue. On a le droit de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Moi, je ne l'ai jamais écouté et je ne commencerai pas demain. Mais on a aussi le droit, quand on représente à nouveau, ce que je disais pour Benzema est valable, quand on représente la France, on a le droit de ne pas choisir un tel personnage. Il y a, il se trouve, un certain nombre d'autres rappeurs, que j'écoute pas plus d'ailleurs, mais qui eux aiment la France et qui le disent, j'eus préféré que l'on choisisse l'un de ceux-là.
Son hymne, la ministre
des Sports dit que c'est un bon choix de l'avoir choisi.
Ben c'est son choix à elle, évidemment.
On arrête là les grandes voix sur ce débat consacré à Benzema et Youssoupha. J'en profite pour parler d'un autre homme, un sportif qui vient de nous quitter, on l'apprend à l'instant. Robert Marchand, vous savez, 109 ans, il était sur son vélo. Il nous a quittés à 109 ans de sa belle mort. Merci les grandes voix. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, bien entendu, sur Europe1.fr. Merci à Jean-Luc Herblade, à la réalisation, à Capucine Patouillet qui m'aide précieusement à la préparation de cette émission. Tout de suite, c'est la table des
bon vivant avec vous, mon cher Laurent Mariotte. Bonjour, quel est le programme?
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
On va continuer notre tour des fermes. On vous emmène en Bretagne pour déguster du gouëlle aujourd'hui, une spécialité laitière bretonne. Et puis on va aussi prendre la température de nos terrasses de restaurants, vous pensez bien.
Bien sûr.
Et on va partager un plat du jour tentaculaire avec Jamy Gourmaud. A tout de suite.
A tout de suite.
Europe 1.